Bienvenidos a este informativo de Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio, dans toute sa richesse, toute sa diversité également. Ce soir, c'est avec Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne pour les réactions à la participation de Jair Bolsonaro au sommet sur le climat. Pour la rédaction en espagnol, Orlando Torricelli.
Buenas noches.
Pour la nouvelle donne politique à Cuba, puisqu'aucun Castro n'est au pouvoir désormais. Et puis, Alireza Malavzadeh. De la rédaction Persane pour faire un point sur la situation sanitaire en Iran à cause du coronavirus. Mais avant cela, revenons sur la condamnation du policier qui a étouffé à mort George Floyd aux États-Unis. Le verdict reconnaissant Derek Chauvin coupable a été accueilli non seulement avec un certain soulagement aux États-Unis, mais également dans de nombreux pays à travers la planète. Pourquoi, Alireza?
D'abord parce que le drame avait entraîné une vague d'émotions partout dans le monde. La diffusion de la vidéo de la scène filmée par une passante avait permis au monde entier d'être en quelque sorte le témoin de ce crime. Rappelez-vous comment pendant une dizaine de minutes, le policier avait plaqué la victime au sol alors qu'il se plaignait de ne pas pouvoir respirer. Ensuite, parce que des manifestations qui ont suivi cet événement, aussi bien aux États-Unis que dans certains pays européens, ont ravivé le mouvement antiraciste baptisé Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. C'est un mouvement authentique qui perdure et dépasse les frontières des États-Unis. Si le coupable avait été acquitté, il y aurait eu certainement des émeutes.
Vous l'avez dit, Black Lives Matter dépasse les frontières des États-Unis. C'est le cas au Brésil, où la version locale de ce mouvement est très active, Lucia Mouzel.
Oui, tout à fait. Au Brésil, on a beaucoup suivi cette affaire et la condamnation est perçue comme historique. Pour la première fois, les violences policières à l'encontre de la population noire ont été sévèrement sanctionnées aux États-Unis. Notre correspondante là-bas, Lady Clock, nous rappelle que ce n'était pas seulement le procès d'un policier, mais de l'histoire de tout un pays. Les Américains attendaient avec impatience ce verdict, car il représente à quelle justice peut-on désormais attendre. Mais aussi, il pourra déclencher de nouvelles mesures pour éviter que ce type de drame ne se répète, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. L'éditorialiste brésilien Kennedy Alencar a publié sur notre site partenaire UOL que cette décision aura un effet global sur le pays où règne le racisme structurel tel que le Brésil. Il habite aux États-Unis et il écrit que là-bas, comme au Brésil, la vie d'un noir compte tout simplement moins que celle d'un blanc. Donc si vous êtes noir, vous êtes beaucoup plus exposé aux violences policières et avez presque 3 fois plus de chances d'en mourir que si vous êtes blanc. Et au Brésil, c'est à peu près pareil.
Et donc, Alireza Malavzadeh, aux États-Unis, ce mouvement a fait tache d'huile. C'est résolument devenu un mouvement politique.
Tout à fait. C'est vrai que c'est un mouvement politique né aux États-Unis contre le racisme systémique envers les Noirs. Mais la mort de George Floyd lui a donné une autre dimension. On peut même dire que ce mouvement a trouvé en la personne de George Floyd un étendard. Actuellement, dans de nombreux pays, les victimes de la ségrégation, qu'elles soient raciales, ethniques ou religieuses, s'identifient à George Floyd. La violence policière fait également ressurgir la mémoire de Floyd. Par exemple, en octobre dernier, lorsqu'un jeune Iranien est mort dans la ville de Mashhad en Iran, sous les coups de la police, lors de son arrestation, les Iraniens l'ont baptisé George Floyd de l'Iran.
Voyons maintenant comment en Amérique latine, avec vous Orlando Torricelli, cette condamnation de Derek Chauvin a été reçue. C'est une véritable onde de choc.
Oui, en fait, c'est là un choc planétaire qui est la presse, enfin tous les médias, y compris les réseaux sociaux d'Amérique latine, ont repris largement. Il faut dire que de la même façon qu'ici en France, la mort de George Floyd en mai de l'année dernière a été un véritable tremblement de terre qui inévitablement a entraîné, pour ne pas dire obligé, beaucoup des sociétés à se poser de questions et à se regarder dans la glace.
Alors justement, quel genre de questions?
Tout simplement, avec un minimum d'honnêteté, avant de cracher sur son voisin, se demander si c'est là pourrait aussi arriver chez soi. Bien évidemment, dans les pays avec une composante démographique afro-américaine plus importante, avec plus d'urgence. C'est pas ma consoeur brésilienne qui dira le contraire. Mais pour mesurer un peu l'impact de la sentence d'Éric Chauvin, il faut écouter les paroles qu'a prononcées les présidents des États-Unis.
Today's verdict is a step forward.
Le verdict d'aujourd'hui est un pas en avant. Cela pourrait être un pas de géant vers la justice en Amérique. Personne ne devrait être au-dessus des lois, et le verdict d'aujourd'hui envoie ce message, mais ce n'est pas assez. On ne peut pas s'arrêter là. La bataille pour l'âme de cette nation a créé de constants tiraillements depuis plus de 240 ans.
Un pas en avant, un pas des géants vers la justice, c'est pas assez. La bataille pour l'âme de cette nation, ce sont des mots quand même très forts, auxquels on pourrait ajouter celle de Kamala Harris, la première vice-présidente noire des États-Unis, qui disait « les Américains noirs, particulièrement les hommes noirs, ont été traités à travers ces pays comme s'ils n'étaient pas des humains ».
Alors on a entendu Joe Biden, c'est assez exceptionnel, parce que généralement les dirigeants sont beaucoup plus circonspects à l'heure de commenter une décision de justice.
Biden, il va même plus loin, il reconnaît que le racisme déchire la société américaine depuis bien longtemps.
Une forme de guerre entre l'idéal américain selon lequel nous sommes tous créés égaux et la réalité brutale qui est que le racisme nous déchire depuis longtemps. Donc, on ne peut pas laisser passer ce moment et penser que notre travail est fait. Nous devons écouter. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Ce sont les derniers mots de George Floyd. On ne peut pas laisser ces mots mourir avec lui. On doit continuer à les entendre. Nous ne devons pas nous détourner. Nous ne pouvons pas nous détourner. Nous avons une occasion d'entamer un changement de trajectoire dans ce pays.
Ce changement de trajectoire, Orlando, ne sera pas forcément pour tout de suite.
Non, malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'effectivement, à peine deux jours après ces verdicts du policier Derek Chauvin, ont eu lieu à Minneapolis, qui est la même ville où Floyd a été assassiné, les funérailles d'un jeune afro-américain tué par une policière blanche lors d'un banal contrôle de routier. Tandis que les autorités de l'État des Carolines du Nord ont ouvert une enquête sur la mort d'un homme noir aussi, abattu dans sa voiture par des adjoints du shérif local. Mais des vents nouveaux semblent souffler des États-Unis et la sentence d'Éric Chauvin, c'est sans doute un tournant sur les changements de trajectoire, on verra plus tard.
Alireza Malavzadeh, je reviens vers vous parce que le régime iranien n'a pas non plus manqué d'instrumentaliser la mort de George Floyd à l'époque, hein.
C'est vrai, mais les médias iraniens ont largement commenté la mort de Floyd et le procès de l'ex-policier qui l'a tué. Je vous invite à écouter les propos du guide suprême sur la mort de Floyd pour voir comment il a profité de cet événement pour régler ses comptes avec, non pas le racisme systémique au sein de la police américaine, mais avec toute l'Amérique.
یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی
Aidez-nous à comprendre ce que disait le guide suprême iranien.
Et il dit le fait qu'un policier écrase tranquillement la nuque d'un homme noir jusqu'à ce qu'il meure et que les autres policiers regardent la scène sans réagir n'est pas un phénomène nouveau aux États-Unis. C'est la nature des Américains. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui avec le monde entier. Quant aux journaux iraniens, ils ont certes exposé longuement le procès. Ceux qui appartiennent aux modérés, comme Etemad, parlent quand même d'une victoire de la justice, tout en soulignant que le problème du racisme est un des problèmes majeurs des États-Unis.
Autre question, je vous la pose, Lucia Mouziel, donc pour le Brésil. Est-ce qu'il y a un effet George Floyd sur la police, sur les institutions brésiliennes ?
C'est tout le problème transposé, ce débat qui est très intense sur les réseaux sociaux, les plateaux télé, à la réalité. Pour le moment, on en est loin. Pour l'instant, la priorité du gouvernement de Jair Bolsonaro au Brésil, en ce qui concerne la sécurité, est toute une autre. Il veut armer davantage, pas seulement la police, mais la population tout entière. Il vient de publier des décrets pour assouplir l'accès aux armes, une mesure qui est assez décalée par rapport au contexte sanitaire dramatique au Brésil en ce moment, mais aussi concernant cette question du racisme. racisme. Depuis le début de son mandat, on peut dire que ce dossier-là reste une page blanche dans son gouvernement quand on parle d'action contre les violences policières ou contre le racisme en général.
Bolsonaro défend les forces de police, au contraire, hein, toujours et tout le temps.
Voilà, il veut pas entendre parler des abus commis tous les jours dans les grandes villes du pays, notamment dans les favelas. Bolsonaro ignore complètement ce débat sur l'antiracisme qui a pris de l'ampleur partout dans le monde, on vient d'en parler. Et pour avoir une idée, lors de la dernière réunion du G20, le président brésilien a profité de son discours pour critiquer les manifestations contre le racisme qui avaient lieu au Brésil à ce moment-là, en novembre de 2020.
Et puis il y a ce rapport récemment paru par Amnesty International, un rapport qui dénonce même l'augmentation des violences commises par la police brésilienne l'année dernière, et ce, malgré la pandémie de coronavirus.
Oui, selon ce rapport, publié il y a 2 semaines par l'Organisation de défense des droits de l'homme, au moins 3181 personnes ont été tuées par la police brésilienne au cours du premier semestre 2020, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Donc, figurez-vous, ça veut dire 17 personnes tuées chaque jour par la police. C'est affreux. Et un quart de ces meurtres se sont déroulés dans le seul état de Rio. L'Amnesty International dénonce que pendant qu'une grande partie de la population se confinait contre la Covid-19, les forces de l'ordre poursuivaient ces opérations dans les favelas où la plupart des morts a eu lieu, et parmi ces victimes, une majorité de personnes noires. Ce rapport pointe que plusieurs de ces meurtres n'ont même pas été enquêtés. C'est une situation très courante au Brésil d'ailleurs.
Quant à Derek Chauvin, il est donc reconnu coupable de la mort de George Floyd, mais sa peine ne sera prononcée que prochainement. Et là encore, on verra bien. Si la peine est lourde, il n'y aura pas d'émeute. Si elle est légère, forcément, on en reparlera dans Accent du Monde sur RFI.
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
On vient d'évoquer la pandémie de coronavirus. Eh bien, l'Iran est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 au Moyen-Orient. Alors, pourquoi ce pays pâtit-il d'un manque de vaccins alors qu'il est confronté depuis maintenant plusieurs semaines à la 4e vague de cette pandémie de coronavirus? Nous allons voir cela avec vous, Alireza Manavzadeh de la rédaction Persane de Radio France Internationale. Avant cela, faites-nous un état des lieux.
D'après les chiffres officiels, le nombre de décès quotidiens est supérieur à ce que le pays a enregistré depuis 50 ans dans les moments les plus difficiles comme la guerre, les tremblements de terre et les inondations catastrophiques. Mardi dernier, le total des décès à Téhéran a frôlé le seuil de 150. Plusieurs villes sont en alerte rouge. Les services d'urgence n'ont plus de place. Les patients sont obligés d'attendre plusieurs jours pour avoir un lit d'hôpital. Les personnes en situation d'urgence sont soignées à même le sol.
Alors pourquoi tout cela? Quelles sont les causes de cette situation dramatique?
C'est vrai que la situation économique du pays n'a pas permis aux autorités iraniennes d'imposer un confinement généralisé à toute la population. Elle rejette naturellement la responsabilité sur les Américains en raison des sanctions qu'ils ont imposées à l'Iran. Une autre cause à l'origine de cette situation est sans doute la corruption endémique du système. Mais la cause principale est évidemment la multiplicité des instances de décision avec à leur tête le guide suprême qui est animé par une idéologie rancunière et n'a aucun sens de la chose politique. Notre rédaction a interrogé la semaine dernière le docteur Arash Alaï, directeur de l'Institut international de l'éducation et de la santé. Écoutons ce qu'il dit à propos du QG que le gouvernement iranien a créé pour harmoniser les activités des secteurs concernés face à la pandémie.
یک ستادی که تشکیل شد، یک ستاد غیر منسجم، متخصصین یک صحبت می‌کردند، افراد سیاسی یک صحبت.
Il
dit le QG a été créé pour soi-disant coordonner les efforts, mais la seule chose qu'on ne voyait pas en son sein, c'était justement la coordination. Les représentants de plusieurs dispositifs du pouvoir qui n'avaient rien à voir avec cette crise faisaient partie de ce QG. Les médecins émettaient une idée, les politiques les contestaient.
Il y a aussi cette prise de position du guide suprême concernant les vaccins fabriqués dans les pays occidentaux. Que pouvez-vous nous en dire?
Tout à fait. Le guide suprême est une source de malheur dans ce pays. Le problème est que malgré l'existence des institutions propres à l'État, c'est lui qui a le dernier mot. Et cela dans presque tous les domaines. Son hostilité envers l'Occident est en quelque sorte un élément constitutif de son identité. Au mois de janvier, dans un discours inflexible, il a interdit l'importation de tout vaccin fabriqué aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les autres pays occidentaux. C'est-à-dire que les Iraniens n'ont pas droit aux vaccins comme Pfizer et Moderna, alors qu'ils savent que ce sont des vaccins appréciés et validés par les instances de santé mondiales.
C'est toute la question de la géopolitique du vaccin. Il faut bien savoir que dans un certain nombre de pays occidentaux ne va pas également entendre parler des vaccins fabriqués en Chine ou en Russie. C'était Alireza Manavzadeh de la rédaction Persane de Radio France Internationale. Intéressons-nous maintenant avec la rédaction brésilienne aux réactions concernant la conférence pour le climat organisée par le président américain. C'était hier et aujourd'hui, à l'initiative de Joe Biden. Les Américains sont donc de retour à la table des négociations, Lucia Mouzel, négociations internationales donc pour la protection de l'environnement.
Et oui, le président américain a souhaité assumer le devant de la scène sur le climat après 4 ans de recul successif des États-Unis sous Donald Trump, qui a même retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Donc Biden a convoqué les leaders de 40 pays les plus émetteurs de CO2, dont Vladimir Poutine et Xi Jinping, pour revenir à la table avec des propositions plus ambitieuses et en préparation à la conférence du climat de l'ONU qui va avoir lieu en novembre. Donc, à commencer par les États-Unis eux-mêmes qui ont annoncé une réduction à moitié de ses émissions d'ici 2030 par rapport aux chiffres de 2005. Et ils ont donné plus de détails aussi sur le chemin vers la neutralité carbone de l'économie américaine d'ici 2050. C'était très attendu.
Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement américain a des arrière-pensées diplomatique en faisant cela?
Ah, c'est sûr. Washington espère exercer son pouvoir de pression vers d'autres pays et inciter la Chine notamment à aller vers de l'avant dans la lutte contre les changements climatiques. Joe Biden s'invite ainsi parmi les leaders du climat, les leaders mondiaux, à côté d'Emmanuel Macron de France et Angela Merkel d'Allemagne, qui a d'ailleurs vivement salué le retour des Américains en estimant que le monde a besoin de leur présence si nous voulons vraiment tenir nos objectifs ambitieux. Je cite Merkel.
Pour vous, les Brésiliens, ce sommet était très attendu car des négociations entre le gouvernement des États-Unis et celui du Brésil étaient en cours ces dernières semaines. Le Brésil a-t-il eu ce à quoi il s'attendait, à savoir du financement pour protéger l'Amazonie?
Non. Avec le Royaume-Uni, la Norvège et le secteur privé, les États-Unis ont annoncé un fonds d'un milliard de dollars. Pour la protection des forêts tropicales dans le monde, mais pas spécifiquement pour l'Amazonie, comme l'espérait le gouvernement du Brésil depuis plus d'un mois, les diplomaties des deux pays se sont rapprochées pour en discuter. Après la sortie de Trump de la Maison-Blanche, Brasilia avait modéré son discours concernant le climat et s'est dit prête à protéger davantage la plus grande forêt tropicale du monde, mais à une condition, recevoir de l'argent des pays riches pour cet objectif. Un ministre brésilien a même parlé de 20 milliards de dollars. Mais la crédibilité de Bolsonaro dans ce dossier est tellement à la baisse qu'il n'a rien obtenu finalement. Donc on écoute l'économiste Anna Toni, elle est directrice exécutive de l'Institut du Climat et Société et elle suit les négociations sur le climat depuis très longtemps. Elle nous a accordé une interview.
E acho que mais uma vez o governo brasileiro não agarrou essa oportunidade. Ao contrário,
Alors, quelles sont ces explications?
Elle dit que encore une fois, le gouvernement du Brésil a loupé une chance importante de regagner le respect de la communauté internationale et de s'aligner au futur, comme elle dit, c'est-à-dire d'assumer ses responsabilités quant à la préservation de son patrimoine naturel. À la place, Brasilia a continué de marchander sans avoir proposé rien de nouveau. Et au contraire, au mois de mars, la déforestation de l'Amazonie a encore augmenté de 30%. C'est la plus grande hausse depuis 10 ans.
Oui, c'est que pour Jair Bolsonaro, comme d'ailleurs c'était le cas pour Donald Trump, l'environnement, c'est un sujet très politique, mais pas forcément pour de bonnes raisons.
Oui, c'est clair, une partie de l'électorat de Bolsonaro est tout simplement négationniste des changements climatiques. Et une autre partie très importante est ouvertement contre toute mesure de protection, car elle peuvent toucher à leurs propres intérêts. C'est le cas des grands propriétaires de terres agricoles, de ceux qui veulent augmenter l'exploitation minière dans l'Amazonie, ou encore en extraire du bois illégal. Ce sont tous des alliés de Bolsonaro. C'est pour ça que dès qu'il a pris les pouvoirs, les lois, les actions de contrôle de la déforestation sont de plus en plus affaiblies. Et à un an et demi des prochaines élections présidentielles, il serait très difficile de croire un changement de cap réel de cette politique anti-environnementale, comme le disent les écologistes brésiliens. D'ailleurs, les organisations environnementales étaient très inquiètes et très mobilisées contre ces négociations avec les États-Unis, en disant que qu'une promesse de Bolsonaro ne pourrait être prise au sérieux. Donc à ce propos, je vous propose d'écouter Eduardo Viol, il est professeur de relations internationales de l'Université de Brasilia, spécialiste de ces questions du climat.
Obviamente, le discours de Bolsonaro est muito bom para eles, digamos. Então, esse é ponto chave.
Quelle est l'analyse d'Eduardo Viola?
Il explique que pour ses électeurs de Bolsonaro, le discours et les actions de Bolsonaro concernant le climat sont très bien, en fait. Et un changement réel de politique pourrait même conduire à une rupture avec cette base électorale très dure qu'il a et qui le soutient hein, d'ailleurs au pouvoir. Monsieur Viola souligne par ailleurs que le Brésil serait tout à fait capable de réduire vraiment la déforestation et n'aurait pas besoin de financement extérieur pour cela, comme il a déjà fait par le passé. Mais, à croire cet expert, la probabilité de voir une telle avancée avec Bolsonaro au pouvoir est très, très réduite.
Et vous suivez bien évidemment tout cela de très près pour RFI, Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne. Cette semaine, Cuba a tourné une page importante de son histoire avec le départ à la retraite de Raúl Castro, qui avait déjà remplacé son frère Fidel au pouvoir. Orlando Torricelli de la rédaction d'Espagnol, racontez-nous cette transition qui s'est étalée dans le temps.
Oui, cela s'est fait par étapes. D'abord par intérim, en 2006, lors de la maladie de Fidel. Officiellement en 2008 comme président du Conseil d'État et en 2011 à la tête du Parti communiste, à un moment que le quotidien Libération, fidèle à son style, a résumé sous le titre « Raoul prend le parti de son frère ». Mais au-delà de ces traits d'humour, aujourd'hui, sans doute, c'est un tournant historique puisque Cuba et Castro, après 6 décennies de pouvoir, étaient devenus presque des synonymes pour la plupart des gens. Aujourd'hui, Raoul, à 89 ans, laisse la place à une nouvelle génération dans un moment particulièrement difficile pour l'île, plongée dans sa pire crise économique en 30 ans, sous l'effet de la pandémie des coronavirus et du renforcement de l'embargo imposé par les États-Unis depuis 62. Et écoutons les commentaires de Jeannette Abel, chercheuse à l'Institut des études d'Amérique latine et spécialiste de Cuba.
L'unification monétaire, d'abord, équivaut à une dévaluation, et une dévaluation très importante. Le pouvoir d'achat est en baisse, l'inflation s'accroît, et les inégalités sociales, aujourd'hui, sont très fortement renforcées. Donc, le défi économique pour la direction actuelle est un défi immense, dont on ne voit pas, tant que les sanctions économiques nord-américaines sont maintenues, dont on ne voit pas très bien comment elles vont être résolues, du moins à court terme.
La tâche n'est donc pas facile pour les nouveaux dirigeants, qui est d'ailleurs le nouveau chef de Cuba?
Il s'appelle Miguel Díaz-Canel. Il est ingénieur électronique de formation. Il n'était pas né lors de la révolution en 59. Et aujourd'hui, c'est le premier civil à diriger le parti en tant que premier secrétaire. On a beaucoup commenté sa passion pour The Beatles, jeans, déplacements à vélo. Disons un style bien plus moderne que celui des frères Castro, mais loin derrière les talents oratoires de Fidel. En tout cas, pour les plus de 11 millions de Cubains, c'est un symbole fort, car ils n'ont jamais connu qu'un Castro, soit Fidel ou Raoul, à la tête du pouvoir. La génération qui a fait la révolution en 59 laisse la place par la force des choses, et les nouveaux dirigeants devront faire face à un contexte très difficile, comme expliqué tout à l'heure Jeannette Abel, où une amélioration des relations avec les États-Unis pourrait être un ballon d'oxygène, surtout pour les Cubains qui sont fatigués des pénuries dans une île qui importe, rappelons-nous, 80% de ce qu'elle consomme. Dans ce sens, dans son dernier discours, Raúl Castro envoyait des signaux aux Américains.
Je confirme la volonté de nouer un dialogue respectueux, une nouvelle forme de relation avec les États-Unis, sans prétendre que pour y arriver, Cuba renonce aux principes de la révolution et du socialisme.
Le dossier Cuba est donc sur la table de la Maison-Blanche, Orlando.
C'est vrai qu'il est sur la table, mais il n'est pas tout en haut de la pile pour le moment. Le nouveau locataire a d'autres affaires plus urgentes. En tout cas, un changement d'une génération à la tête du pouvoir n'est donc pas pour autant de garantie d'ouverture, surtout si elle doit respecter, comme disait Raoul tout à l'heure, l'exigence de rester fidèle aux principes de la Révolution. Mais dans ces changements de décor, la génération des réseaux sociaux, des jeunes Cubains frustrés par l'absence d'opportunités, est plus impatiente et peut-être sera plus exigeante face à des dirigeants qui ne pourront pas se draper dans les souvenirs glorieux de la Sierra Maestra.
La Sierra Maestra, c'est ?
La Sierra Maestra, c'est les berceaux de la Révolution cubaine, si on peut dire. Où naît la guérilla, etc.
D'accord. En tout cas, les jeunes, eux, ils n'attendent pas pour écouter de la bonne musique.
Ah non, ça sûrement pas.
Comme par exemple celle de Buena Vista Social Club, avec ce titre.
Oui, qui est un, rappelons-nous, qui est un groupe qui a été formé en 96 par un guitariste américain, Ray Cooder.
On l'écoute.
Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para Mayarín.
Vista Social Club, un groupe cubain avec ce titre Chan Chan pour clore cet Accent du Monde, toujours aussi intéressant de semaine en semaine. Accent du Monde réalisé ce soir par Laurent Philippot. À suivre, un nouveau journal sur Radio France Internationale.